Et bonsoir et bienvenue dans le temps du débat consacré ce samedi à la valeur des diplômes obtenus en temps de Covid.
En réalité, vous savez, ce serait facile pour moi de dire oui à tout. En réalité, ce que je cherche, c'est une bienveillance vraiment réelle vis-à-vis des élèves, c'est-à-dire leur permettre de passer un baccalauréat qui a sa pleine valeur, et puis leur permettre aussi de s'entraîner à ce qui va les faire réussir plus tard.
Il y a une double inquiétude. La première, c'est le fait de ne pas trouver de travail, tout simplement. Et puis, il y a aussi l'inquiétude de que va valoir mon diplôme, finalement. Est-ce que je vais avoir un diplôme en chocolat ?
Avoir un bon diplôme, c'est la clé de la réussite.
Pour les concours, la règle, c'est que le concours ne compte pas. Vous savez que souvent, pour les concours, on a un nombre d'essais, si je puis dire. Mmh. Et dans ce cas-là, l'essai ne comptera pas.
J'étais dans un CFA, donc moi, j'ai fait les cours en distanciel. Les autres, ils étaient dans un lycée et eux, ils l'ont fait en présentiel. Donc voilà, il y a des grosses inégalités.
In fine, je vais être jugé sur un dossier de master contre des étudiants qui n'auront pas eu ces examens-là. Ce mode de sélection en première année de master avec des examens qui ne sont pas les mêmes pour tous.
Le diplôme a du sens cette année et que contrairement à ce qu'on entend, parfois, malheureusement, il ne s'agira pas de diplôme bradé.
L'inquiétude monte chez les étudiants. Quelle valeur pourra bien avoir leur bac, leur diplôme universitaire ou autre passé dans les conditions imposées par la Covid? Le phénomène est évidemment difficile à mesurer, mais il y a bien un vrai sentiment de perte de valeur, comme l'ont montré les résultats d'une enquête menée par 3 chercheurs en sociologie de l'Université de Pau, rendue publique le 5 mai dernier. On peut notamment y lire ce témoignage. Étant en terminale pendant le confinement, j'ai une vision mitigée de la fin de l'année et pour cause, j'ai l'impression d'avoir eu mon bac dans une pochette surprise. Il faut dire que les modes d'évaluation ont profondément été révisés, avec par exemple l'importance du contrôle continu pour le bac, le développement de questionnaires à choix multiples, les fameux QCM, ou de soutenance en visioconférence. Or, on le sait, ces questions prennent une importance particulière en France, où le fétichisme de la note, la mythologie de la méritocratie et le poids du diplôme sont très présents. Il y a par ailleurs un aspect presque anthropologique, un rite de passage qui se joue là. C'est tout cela que la Covid est venue bousculer, révélant des inégalités préexistantes et peut-être même en créant de nouvelles. Alors que vaudront les diplômes Covid? C'est la question du temps du débat de ce samedi à écouter en direct jusqu'à 19h sur France Culture et quand vous le souhaitez sur l'application Radio France.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Et 3 invités pour répondre à cette question. Mélanie Luce, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, qui est le premier syndicat étudiant, et vous en assurez la présidence depuis 2019. Nous sommes également avec Marie Durubella, bonsoir. Vous êtes sociologue, professeur de sociologie à Sciences Po Paris depuis 2007 et spécialiste justement de ces questions d'éducation, d'enseignement supérieur. Vous êtes également chercheuse à l'Observatoire sociologique du changement. Et enfin, Pierre Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de Sciences Po Lille, professeur vous-même de sciences politiques et auteur de ce qui s'est appelé le rapport Mathieu de votre nom sur l'avenir du bac, et vous copilotez justement encore le comité de suivi de la réforme du bac. Donc vous avez un pied, on va dire, dans le lycée et un autre dans l'enseignement supérieur, et c'est justement ça qui va nous intéresser ce soir. Et je vais d'ailleurs commencer avec vous, Pierre Mathieu, puisque vous avez eu justement à organiser à Sciences Po Lille la façon d'examiner vos étudiants, peut-être même la façon de les faire rentrer, puisque les IEP, c'est, on y rentre sur concours, enfin sur examen. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont ça s'est passé, si vous avez le sentiment justement que on peut dire que c'est un petit peu dégradé pour les étudiants qui sont cette année?
Écoutez, je pense qu'il faut d'abord distinguer, quand on dit valeur du diplôme, il faut distinguer le diplôme, c'est-à-dire ce qu'on donne en fin de cursus, donc le bac par exemple, ou la licence, ou le master, et puis par ailleurs le passage d'année en année, de la L1 à la L2, du M1 au M2, etc. etc. Donc ça, c'est pas la même chose, si vous voulez déjà. Bon. Après, sur les examens qu'on a pu faire passer, là encore, évidemment, on a dû changer les modalités d'examen pour tenir compte des contraintes du distanciel, et on pourrait y revenir peut-être, mais dans certains aspects, je pense que le passage au distanciel pour les examens n'a pas été si négatif que ça, parce que ça nous a aussi obligé, nous, à interroger nos manières un peu historiques, canoniques d'évaluer. Et puis, il n'y a pas que des examens dans un cursus pour évaluer les élèves et pour leur permettre de passer d'année en année ou d'avoir un diplôme. Il y a aussi les stages, il y a les mémoires et les soutenances de mémoire. Vous voyez, donc il ne faut peut-être pas se limiter aux examens qu'on passe en amphi, hein, si on parle de la fac ou des écoles, il faut aussi penser à toutes les formes d'évaluation que les élèves ont à passer, et plus largement finalement à tout ce que les élèves sont censés faire durant une année académique normale, pas simplement des cours, et qui évidemment tout cela a été perturbé par la situation depuis mars 2020.
Mais justement Pierre Mathieu, les stages, il n'a pas pu y en avoir, c'est-à-dire que ça a limité aussi le panel des façons de juger les étudiants.
Non, les stages ont eu lieu. Moi, dans mon établissement, la totalité des élèves de dernière année, hein, normalement à partir de janvier de la cinquième année, qui est l'année du diplôme, les élèves sont en stage. Tous les élèves de mon établissement étaient en stage, sauf que pour la plupart d'entre eux, le stage était un stage distanciel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils étaient en stage, ils ont trouvé des stages, sauf que ils étaient chez eux, ou en apprentissage, mais ils étaient chez eux. Ce qui veut dire que globalement, ils ont fait un stage, ils sont en train de rédiger leur rapport de stage, qui est un des éléments importants de leur diplomation, sauf qu'évidemment, faire un stage à distance avec un ou deux jours par semaine au maximum de travail sur site, ça n'est pas comme faire un stage classique, habituel, et cela, vous voyez, ça peut effectivement modifier leurs conditions d'accès au monde du travail.
Mélanie Luce, est-ce que vous diriez, alors évidemment les situations sont extraordinairement différentes en fonction des formations, des lieux, des universités, des écoles, on ne pourra pas donner un avis vraiment général, mais malgré tout, dans la façon dont les établissements, les directeurs d'établissements, les présidents d'université ont pris en charge la nécessité d'évaluer les élèves, est-ce que vous diriez que c'est assez satisfaisant, pas très satisfaisant? Je vous demande pas de mettre une note, mais comment vous situez-vous à l'UNEF sur cette question?
Alors qu'on questionne les notes, est-ce que...
Ben justement.
Non, nous, on a posé plusieurs revendications autour de l'organisation des examens. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des volontés d'adaptation qui ont été mises en place. Par contre, sur beaucoup d'universités, ce sont les étudiants qui ont dû aussi demander des adaptations. Parce qu'en fait, le risque des examens sous Covid, c'était... à notre sens, pas tellement de diminuer la valeur du diplôme, mais au contraire d'augmenter le taux d'échec. Et par ailleurs, ce risque s'est vérifié. C'est-à-dire que au premier semestre 2020, sur l'année 2020-2021, il y a un taux d'échec qui a augmenté de 3%. Et on attend encore les résultats là sur le deuxième semestre donc de l'année en cours. Ça paraît peut-être rien, mais 3% c'est quand même 50 000 étudiants, donc là en l'occurrence qui sont concernés. Donc à ce titre-là, nous ce qu'on a demandé c'était des aménagements justement pour que les examens ils correspondent au mieux à ce qu'attendent les étudiants. Et donc on en a demandé lors du tout premier confinement, en demandant un filet de sécurité, c'est-à-dire qu'on n'est pas en dessous de 10. Là, en l'occurrence, on avait eu tout un semestre en présentiel avant et même quelques mois de cours. Et donc, on pouvait largement être évalué de cette manière-là. Et puis, là, sur l'année en cours, on a demandé surtout un cadrage national des examens. Et là-dessus, les étudiants n'ont pas été très satisfaits, en fait, de ce qui s'est passé parce que effectivement, j'entendais dans votre reportage des étudiants dire que il y avait des situations différentes en fonction des établissements. Ce que demandait l'UNEF, c'était un cadrage national. Et ce cadrage, il n'a pas été mis en place. Donc, ça dépendait beaucoup des établissements, malheureusement.
Est-ce que, selon vous, il aurait fallu aller jusqu'à donner cette année comme une année blanche, presque?
Sur l'année en cours, c'est pas ce que l'UNEF a défendu. Nous, ce qu'on a défendu, c'était qu'il puisse y avoir un processus d'évaluation, mais qu'il soit le moins discriminant possible et qu'il laisse le moins de côté les étudiants les plus précaires. Et pour ça, il fallait s'adapter. Et malheureusement, pour moi, la responsabilité, elle est pas tellement sur les établissements qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans un contexte très compliqué. Surtout sur le gouvernement, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui n'a pas donné de consignes. Donc là, par exemple, ce qu'il fallait faire, c'était s'assurer qu'on n'ait pas d'étudiants qui est zéro parce que on a une plateforme numérique qui a enregistré leurs devoirs avec quelques secondes de retard.
Ce qui s'est passé.
Oui, ce qui s'est passé à Paris 1, sur l'université Paris 1. Alors, il y a eu une mobilisation derrière pour essayer de résoudre la situation. Ce qu'il fallait faire aussi, c'était s'assurer qu'on n'ait pas des étudiants obligés de passer leurs examens en présentiel alors qu'ils avaient le Covid ou qu'ils étaient cas contact. Ce qui s'est passé aussi dans plusieurs universités et pour les étudiants en BTS. Donc, c'était là qu'il fallait trouver des solutions.
Marie Durubel, est-ce que vous comprenez cette inquiétude aujourd'hui des étudiants quant à la valeur de leur diplôme obtenu dans les conditions qu'on vient de décrire?
Oui, on peut la comprendre, évidemment, parce que les étudiants sont dans le bain, ils sont dedans. Mais quand on regarde avec un peu de distance la valeur, ce qui fait la valeur des diplômes, il y a deux éléments qui sont assez différents. D'une part, il y a effectivement les connaissances, les compétences, toute l'expérience, hein, comme le disait mon collègue, qu'on accumule pendant une année d'études. Mais il y a aussi, finalement, le classement global des jeunes quand ils vont se présenter sur le marché du travail. Et la valeur du diplôme, c'est le marché du travail qui va la faire. C'est-à-dire que si l'économie repart... Finalement, ce qui s'est passé cette année, au niveau des universités ou de toutes des écoles aura peu d'importance. C'est-à-dire que les étudiants, évidemment, ils sont collés sur ce qu'ils vivent et sur leur diplôme, etc. C'est normal, hein. Mais finalement, c'est l'économie qui tranchera d'une certaine manière. Et donc, là, on est optimiste ou pessimiste selon la vision qu'on a de la croissance économique et de l'avenir dans les 6 mois, si vous voulez. Donc, il faut peut-être prendre un petit peu de recul. Puisque je voudrais aussi souligner quand même par rapport à ce qui a été dit notamment par Pierre Mathieu, c'est que il y a des étudiants qui ont plus souffert que d'autres. On voit bien dans les universités, est-ce que tous les stages ont eu lieu? C'est pas sûr. Alors, qu'à Sciences Po ou dans les écoles, il y a eu une adaptation très tonique et les stages ont sans doute eu lieu. Il est probable, il est même certain, et je pense que Mélanie Luce le dirait, que dans les universités, ça s'est pas passé comme ça. Donc, c'est vrai que les jeunes peuvent sentir à bon droit que finalement, ceux qui étaient déjà dans les conditions d'études très favorables, eh bien, sentir mieux que les autres, ça c'est certain.
Un mot là-dessus, Mélanie Luce, avant de faire réagir Pierre Mathieu, vous diriez que, après ce que vient de dire Marie Durubella, vous confirmez qu'il y a une augmentation des inégalités, finalement, qui sont assez connues hein, dans le système supérieur d'enseignement français, notamment, oui, entre les écoles et l'université, par exemple.
Oui, bien sûr, il y a une double inégalité, en fait, dans l'enseignement supérieur. D'un côté, la différence école-université, et on sait qu'il y a bien plus d'étudiants d'origine favorisée dans les écoles, même s'il y a aussi des étudiants d'origine précaire, et au sein de l'université, entre les étudiants qui viennent des classes sociales les plus favorisées et les autres. Et c'est certain que quand il s'agit de trouver un stage, on sait très bien que le réseau, ça compte, malheureusement, et d'autant plus en temps de Covid.
Et on est moins accompagné à l'université qu'on peut l'être une fois qu'on est rentré dans une école comme un IEP ou une école de commerce, par exemple.
Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu à réformer notre pédagogie. Parce qu'en fait, l'accompagnement à l'université est assez faible et donc on tient cet accompagnement, on y arrive à tenir et à réussir nos études quand derrière, on a souvent une famille, on a des codes sociaux qui sont ceux de l'université. Et c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui une reproduction sociale qui est très forte. Si on veut donner quelques chiffres, je rappelle quand même qu'on est à 13% d'enfants d'ouvriers en licence, on arrive à 7% en master et à peu près 4-5% en doctorat. C'est quand même très très faible par rapport à ce qu'il y a dans la société. Et ça, c'est parce qu'en fait, au fur et à mesure, il y a une érosion et il y a des refondes pédagogiques qui sont nécessaires. Par contre, contrairement à ce qu'a dit Pierre Mathieu tout à l'heure, moi, je pense pas que ces refondes se passent uniquement par le numérique. Je dis pas que c'est totalement ce qui voulait être dit, mais à l'UNEF, nous, on défend surtout le fait de réduire les effectifs en cours, d'augmenter le nombre d'enseignants pour avoir un vrai accompagnement et de mettre en place du tutorat, des cours de remise à niveau sur la base du volontariat, etc.
Pierre Mathieu, un mot pour préciser justement ce que vous voulez dire hein, sur ces modalités nouvelles d'examen qui sont peut-être auraient donné des idées.
Oui, alors j'ai surtout pas dit ça. Je rassure Mélanie Luce. Moi, je suis complètement favorable au présentiel, évidemment, et en particulier pour les élèves les plus fragiles. Hein, c'est évident. Mais maintenant, ce que je voulais dire, c'est que en fait, en évaluant nos élèves à distance, on a en quelque sorte innové. Et puisqu'on l'un des objets de notre rendez-vous là, c'est la réussite des élèves. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que les professeurs et les élèves étaient quelque part plus satisfaits en premier cycle des examens à distance, pour lesquels on autorise la consultation de l'ensemble des documents que les élèves peuvent vouloir consulter. On a modifié le type de sujet qu'on demande aux élèves, et au final, les collègues enseignants ont, entre guillemets, mieux noté, sont plus satisfaits en fait de ce qui a été fait. Les élèves nous ont dit que finalement plancher depuis chez eux, par exemple, c'était plus rassurant, etc. Donc je pense qu'il y a des formes d'innovation qui peuvent être intéressantes et qu'on devrait tirer de comme enseignement de ce qui s'est passé. Mais bien entendu, je veux le dire tout de suite ici, il va de soi qu'on faut surtout pas comparer une école comme celle que je dirige, qui évidemment accueille 280 élèves par promo, donc vous imaginez bien qu'on a une taille humaine qui nous permet d'accompagner presque individuellement les élèves, et les énormes bataillons de L1 avec parfois plusieurs milliers d'élèves de la même discipline. Et évidemment, dans ces moments-là, ce que je pense qu'on peut dire toutes et tous ici, c'est que le Covid a été un accélérateur d'inégalités que l'on connaît en fait chaque année, hein, notamment l'abandon ou le découragement des élèves durant la première année, qui existe déjà, quoi qu'il arrive, notamment les élèves de catégorie populaire, ça a été dit tout à l'heure par Mélanie Luce. Je pense que évidemment cette année, ça a été aggravé, bien entendu, par la situation de la Covid.
Alors Marie Durubella, précisément, c'est votre sujet, hein, la question des inégalités scolaires. Vous avez des éléments pour compléter ce que vient de dire Pierre Mathieu, peut-être le confirmer, apporter des éléments pour étayer cela.
Oui, donc les inégalités qu'on observe dans l'enseignement supérieur, on peut juste rappeler qu'elles sont largement déjà présentes au niveau du lycée et même bien avant. Donc, il n'y a pas tellement de nouvelles inégalités sociales une fois qu'on est dans l'enseignement supérieur, mais on va aborder le supérieur avec des bacs qui préparent plus ou moins bien et aussi avec une motivation d'entrer dans telle ou telle filière ou au contraire de se résigner à ne pas y entrer. Donc, beaucoup de choses sont déjà là. Mais là, ce sur quoi je pourrais insister, c'est le problème du contrôle continu qui a été évoqué pour les lycéens, mais qui a joué aussi, bien entendu, à d'autres niveaux. Le contrôle continu, les enseignants mettent des notes par rapport à la classe telle qu'ils l'ont. S'ils font face à un public plutôt peu motivé et pas très bon, alors on peut dire fragile maintenant, mais c'est vrai qu'il y a des publics plus ou moins bien préparés à réussir, eh bien, ils vont adapter le niveau de leurs notes pour pas, comme on disait dans le temps, désespérer Billancourt. On va pas mettre 5 de moyenne à un groupe de TD. En même temps, on mettra pas non plus 18 à un autre. Donc, les notes du contrôle continu, effectivement, elles s'adaptent au public qu'on a et le fait de les prendre en compte, c'est pour ça que j'ai toujours défendu, bien que ça fasse un peu ringard, des examens nationaux comme le baccalauréat hein, ou des épreuves nationales. Je pense qu'on y verrait plus clair sur les inégalités, y compris entre étudiants, s'il y avait des épreuves nationales, par exemple, de licence L1 en droit, qu'est-ce que ça fait les étudiants français qui ont ce diplôme-là. Mais ça, c'est un peu une autre problématique. Ça reste une utopie à l'heure de l'autonomie des universités.
Un mot quand même, Pierre Mathieu, puisque je le rappelle, hein, vous avez rédigé un rapport sur le bac et vous copiloter actuellement le comité de suivi de cette réforme du bac où, là, évidemment, avec la Covid, le contrôle continu a pris une importance particulière, mais qui c'était une question qui était déjà en gestation, qui était déjà comprise, justement, dans cette idée de mieux évaluer sur la continuité, d'avoir une meilleure continuité, notamment entre le lycée et l'enseignement supérieur.
Alors, deux petites choses. La première, c'est que dans le bac tel qu'il a été révisé, donc normalement, hein, hors Covid, parce qu'évidemment, cette année, 82% du bac va être calculé sur la base du contrôle continu. Ce qui est prévu, c'est 40% de contrôle continu, 60% d'examen terminal. Donc, en fait, pour faire le lien avec ce que vient de dire Marie Durubella, je trouve que c'est une forme d'équilibre. Hein. D'un côté, on va prendre en compte le contrôle continu, avec les biais de notation qui ont été évoqués par ma collègue tout à l'heure. Et puis, par ailleurs, il y aura des épreuves terminales. Donc, une espèce de mixte entre les deux, ça me paraît plutôt pas mal comme logique. Bien sûr. Après, sur la notation dans l'enseignement supérieur, enfin, je sais que Madame Illus, l'UNEF, est très attachée à ce qu'on lance un débat sur cette question, parce que c'est vrai qu'en France, on est quand même dans une espèce de pathologie de la note et de la pseudo-scientificité de la notation qui doit être interrogée, aussi bien, je pense, au lycée que dans l'enseignement supérieur, parce qu'on en est encore à se rappeler quelle note on a eu au bac il y a 30 ans ou 35 ans, en faisant comme si cette note était quasiment scientifiquement prouvée ou fondée, alors qu'à mon avis, il faudrait interroger quand même tout cela. Et
vous, à l'Iliopé de Lille, vous êtes passé aux lettres, par exemple.
Oui, il y a à peu près 5 ans, on est passé aux lettres, ABCDE, on l'a fait progressivement, en première année, en deuxième année, etc. etc. Ça n'a été pas évident du tout, parce que aussi bien les élèves que les profs dans nos établissements sont plutôt des gens qui étaient très à l'aise avec le système de la note en chiffres, parce que c'était de très bons élèves. Donc on y est passé effectivement, et puis on essaye d'associer à la notation la question des compétences, n'est-ce pas, hein, ce qui existe dans le primaire, au collège. C'est une vraie rupture paradigmatique qui prend beaucoup de temps à mettre en place, et je pense qu'il faut plusieurs années de conversion des collègues et des élèves à cette méthode. Mais effectivement, on l'a mis en place.
C'est-à-dire mesurer les compétences acquises et non pas seulement donner une note sur une dissertation. Mélanie Luce, c'est en effet l'une des questions que vous posez régulièrement à l'UNEF. Un mot sur ce que vient de dire Pierre Mathieu?
Oui, en fait, si on veut révolutionner nos pédagogies, parce que c'est une nécessité aujourd'hui en France, on voit bien que dans d'autres pays, des fonctionnements pédagogiques, des systèmes pédagogiques fonctionnent beaucoup mieux. Eh ben, il faut prendre le temps, mais pour nous aussi, il faut sortir. C'est un des éléments, sortir du système de notation et rappeler qu'en fait un diplôme c'est pas la valeur c'est la valeur de ce diplôme, c'est quoi, c'est les qualifications qui ont été acquises, et donc c'est effectivement tout le travail qui a été fait par l'étudiant et par l'enseignant qui nous a accompagné. La question en fait c'est simplement, une fois que je suis titulaire d'un master de droit, ça veut dire que j'ai les qualifications requises pour réaliser telle et telle et telle et telle mission, ça veut dire que j'ai appris tels éléments, et aussi que j'ai pu développer une ouverture d'esprit, parce que c'est pas uniquement ça, un diplôme, c'est pas juste...
Vous êtes étudiante en droit, hein, je le rappelle pour
nos auditeurs. Oui, c'est pour ça que je donne cet exemple, c'est plus simple. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que on a un double discours. D'un côté, on nous dit le diplôme, effectivement, ça atteste l'acquisition des qualifications. Et puis de l'autre, on nous dit que bon, il a pas la même valeur en fonction de si on a mention assez bien, mention bien ou mention très bien, et des notes qu'on a eues, alors que ça devrait pas fonctionner comme ça.
Marie Durebella, j'aimerais qu'on s'arrête encore un instant sur cette question de la note. Vous parliez de presque de fétichisme de la note tout à l'heure. C'est vrai aussi que on a vu, par exemple, sur la question de la disparition des dissertations au profit des QCM, l'idée que avec la dissertation disparaissait la mesure de la réflexion critique, la problématisation, la capacité d'écriture. C'est très puissant, ça, dans l'imaginaire scolaire, j'allais dire, français.
Oui, bien sûr, mais ça, on le sait depuis longtemps. Hein. Vous savez, Bourdieu disait, la valeur du diplôme, c'est le diplômé, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à finalement qualifier une personnalité dans toutes ses finesses, et puis il y a toute cette ombre portée de l'humanisme classique. Mais peut-être que c'est effectivement quelque chose qu'il faut remettre en cause pour des tas de raisons, mais aussi parce que les compétences dont on aura besoin dans les métiers tels qu'ils se profilent à l'horizon, on parle de plus en plus, sur le monde du travail, de ce qu'on appelle, c'est pas un très joli mot, les soft skills, des compétences un peu molles, des compétences humaines, des compétences de travailler en équipe, de s'exprimer sans problème, d'où l'intérêt de l'oral. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Pierre Mathieu. Donc, c'est des compétences qui sont difficiles à mesurer et qui vont se réaliser souvent sur le tas. Donc, cette idée qu'on va faire un bilan complet, finalement, comme on fait un bilan de santé d'un étudiant quand il sort de l'université, puis après, on le lâche dans la nature, il y a toute cette conception-là qui est aussi à revoir, hein, qu'est-ce qu'on forme, hein, et pour quel type d'emploi. Et là, je pense qu'on a vraiment du travail pour savoir comment mesurer. Déjà, on a du mal à mesurer, je sais pas, la qualité d'expression, des choses comme ça. Mais alors, les compétences humaines, la capacité à travailler en équipe, là, c'est quand même autre chose. Donc, on a un vrai chantier sur l'évaluation.
Alors, le clin d'œil en question sur la question de l'oral, Pierre Mathieu, c'est que vous êtes le père, ou en tout cas un ardent défenseur du grand oral au bac. Mais c'est pas vraiment là-dessus que je voulais vous entendre, même si vous pouvez tout à fait réagir à cette question. Mais c'est plutôt justement sur cette alternative. Est-ce que un diplôme prépare au monde du travail véritablement, ou est-ce que on forme des étudiants, des jeunes à un métier et où on leur assure la capacité à réagir dans un monde en mouvement? C'est un peu la question, l'alternative qui se pose aujourd'hui. Et au milieu, il y a l'examen. Et comment faire pour que l'examen, le diplôme, en temps de Covid ou non, sanctionne en quelque sorte, ou en tout cas permette de savoir où en est l'étudiant?
Alors, d'abord, je pense que vous avez parlé de QCM tout à l'heure. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est que les élèves, dès le lycée, puis aussi dans l'enseignement supérieur, en fait, soient évalués sur des types de, sur la maîtrise d'exercices différents. Donc, les QCM, la dissertation, la note de synthèse, l'oral, un mémoire, un stage avec un rapport de stage. Vous voyez, une multitude d'exercices. Donc, en soi, les QCM, moi, ça ne me pose pas problème, à la condition, évidemment, que l'évaluation ne se réduise pas à des QCM. Première remarque. Deuxième remarque, tout à fait d'accord sur ce qu'on appelle en bon français les soft skills. Le problème de l'évaluation des soft skills, par exemple, l'engagement associatif ou l'engagement syndical, pour faire référencer un clin d'œil à Mélanie Luce.
Beaucoup de clin d'œil ce soir.
C'est un soir clin d'œil. Je pense qu'on, il faut le faire. Le problème, évidemment, vous allez le comprendre tout de suite, c'est la masse des élèves. C'est-à-dire que, évidemment, vous voyez, évaluer de manière un peu fine les compétences des élèves, ou enseigner de manière plus fine en mettant fin aux enseignements en amphi où vous avez 600 élèves dans un amphi, c'est, je pense, nécessaire. Ça se heurte, bien entendu, à une question de moyens et de culture. C'est-à-dire qu'en France, le grand enseignement magistral, ex-cathédra ou le professeur en robe, comme certains collègues le font encore à Assas ou à Mélanie Luce, eh bien, peut-être qu'il faut l'interroger, bien entendu. Je pense. Hein. Et donc, on est dans ces mécanismes-là. Donc, le grand oral, juste clin d'œil là-dessus, c'est que, évidemment, dans la réflexion que j'avais eue sur la réforme du baccalauréat, j'avais constaté que la France, à la différence de pas mal d'autres pays, notamment l'Italie avec le colloquio, la France n'avait pas d'exercice de fin de cursus secondaire qui permettait ou qui permette aux élèves de se colter à la compétence orale, si vous voulez. Alors, pas la compétence orale pour la compétence orale sous la forme d'une espèce d'éloquence à vide, mais une compétence orale adossée à des disciplines. Donc, vous voyez, petit à petit, le système évolue, mais c'est un système qui est très dépendant d'une forme de dépendance au sentier, comme on dit en sciences politiques, c'est-à-dire que le bac tel qu'on l'organise, l'enseignement supérieur tel qu'il est organisé, les évaluations telles qu'elles sont organisées, sont très très enquistées dans l'histoire, et le problème, c'est la massification, c'est-à-dire que faire des grands cours d'amphi évalués avec une dissertation en 4 heures, c'est quelque chose qui était probablement encore pertinent et acceptable lorsque il y avait peu d'élèves en licence ou en maîtrise et DEA, DESS comme avant. Aujourd'hui, il faut faire face à des nombres d'élèves qui sont effectivement très importants. important. Voilà. Donc vous voyez, on a de vraies difficultés. Je pense qu'on est à un point de bascule. Même si la massification est ancienne maintenant, on est à un point de bascule, me semble-t-il.
Mélanie Luce, un mot sur cette question de la massification.
En fait, on a un point de bascule où il faut investir. Il faut faire le choix d'investir. Et au bout d'un moment, on ne peut pas toujours, à chaque problème qui touche l'enseignement supérieur, il y a la question des moyens. Et la réponse du gouvernement aujourd'hui, mais malheureusement aussi des gouvernements précédents, ça a toujours été de sous-investir sur l'enseignement supérieur. Donc on se retrouve dans une situation où c'est certain que parler aujourd'hui de réduire les places en amphithéâtre et donc de passer à des cours en petits groupes, alors que en ce moment même, il y a des étudiants qui essayent et des lycéens qui essayent d'avoir une place à l'université. Et donc une place sur les marches d'un amphithéâtre, c'est certain que ça paraît dérisoire. Mais sauf que c'est nécessaire si on veut réellement lutter contre les inégalités. Donc il faut investir, créer des places et pouvoir réduire les effectifs. Et au-delà de ça, au-delà de la question de réduire les inégalités de cette manière-là, pour nous, il y a aussi la question du contenu de la formation. Tout à l'heure, j'ai entendu notamment parler de la question des programmes, d'avoir des examens nationaux à l'université, etc. Là, aujourd'hui, à l'université, il n'y a aucun programme. C'est-à-dire que chaque université fait ce qu'elle souhaite. Chaque responsable de formation est censé coordonner les choses. Il y a un cadrage national et des intitulés, mais pas du contenu de la formation. Et ça fait longtemps aussi que l'UNEF se bat pour cadrer le contenu des formations et qu'on s'assure que, quelle que soit l'université dans laquelle on est le même contenu de formation.
Enfin, tout de même, Mélanie Luce, qu'on fasse du droit à Toulouse, à Strasbourg, à Marseille, à Lille ou à Paris, un étudiant de licence ou de master, il aura sensiblement reçu les mêmes enseignements. Il sera passé, par exemple, puisqu'on parlait du droit, il aura fait du droit pénal, il aura fait du droit public, enfin il aura validé, on va dire, un ensemble, un tronc commun.
Oui, mais malheureusement, aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, il y aurait les facs d'élite et les autres. Et donc, si on ne met pas en place ce cadrage du contenu de la formation, on laisse cette rhétorique s'installer. Et puis, au-delà de ça, sur les disciplines comme la psychologie, par exemple, c'est un vrai débat. Il y a un débat scientifique sur la manière dont on doit enseigner la psychologie dans le pays. Et donc, cadrer les formations un minimum, en laissant bien sûr une liberté d'enseignement, ça permettrait de gommer toutes ces inégalités.
Oui, ça m'étonnait de voir l'UNEF contre la liberté pédagogique.
16,01 de moyenne, bilan très satisfaisant. Cyrine a fait preuve de sérieux et d'investissement.
France Culture.
J'ai été refusée de 40 vœux, vœux et sous-vœux, et j'ai eu zéro proposition d'admission.
Le temps du débat du samedi.
On ne sait pas en fait exactement sur quels critères il se base.
En gros, une moyenne de 16 sur 20, quand vous avez 5900 candidats et 275 places, ça ne suffit pas pour passer la barre des algorithmes. En fait, les gens qu'on a ont des moyennes à 17, 17,5, 18, 19.
Raphaël Bourgois.
France Culture, il est 18h, passé de 37 minutes et ce soir dans le temps du débat on pose cette question: que vaudront les diplômes Covid? Et pour y répondre, trois invités: Mélanie Luce qui est la présidente de l'UNEF, Marie Durubella qui est sociologue spécialiste de ces questions d'éducation et d'enseignement supérieur, voilà, et qui enseigne à Sciences Po, et enfin Pierre Mathieu à Sciences Po Paris pour Marie Durubella, Sciences Po Lille pour Pierre Mathieu qui en est le directeur et qui a aussi piloter la réforme du bac. Un mot, Pierre Mathieu, puisque on a choisi quand même de poser la question de Parcoursup, puisque le bac c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur, c'est en tout cas ça qui permet d'y rentrer. La réforme pour laquelle vous avez travaillé, c'est pas votre réforme, c'est celle du ministre Jean-Michel Blanquer, mais cette réforme voulait justement avoir une meilleure continuité l'un à l'autre. Or on voit que notamment sur cette question des notes, et de l'évaluation, ça coince au niveau de Parcoursup.
Écoutez, d'abord, je pense que Parcoursup, il faut s'interroger sur la manière dont fonctionnerait l'affectation des élèves dans le SUP s'il n'y avait pas Parcoursup. Je crois que, s'il n'y avait pas, ça s'appelle Parcoursup, et s'il n'y avait pas un système centralisé, nationalisé.
Il y en avait un avant.
Qui était APB, mais avant il n'avait pas. Vous voyez, de mon temps, alors c'était un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais on déposait des dossiers un peu partout, c'était quand même à la bonne franquette, et c'était également extraordinairement inégalitaire, probablement encore plus inégalitaire que Parcoursup. Avant il y avait APB qui a été modifié par Frédéric Vidal, mais les choses se sont structurées au niveau national. Donc, alors pour répondre très clairement. Évidemment, la question des algorithmes. La question qui se pose, c'est que les élèves peuvent faire 10 vœux et des sous-vœux. Et puis nous, alors là, je prends ma casquette de l'enseignement supérieur. On doit examiner des dossiers. Et comme j'ai entendu dans votre petite incise orale, là, un collègue, moi si je prends mon établissement, on a un concours qui réunit 7 des 10 Sciences Po de France. Cette année, on a eu 13 700 candidats pour 1 160 places. Et en plus, du fait de la Covid, on n'a pas pu organiser, comme on l'avait prévu, les épreuves écrites sur une journée d'épreuves écrites. Donc, on a dû adapter et mettre en place un algorithme qu'on a complété par une épreuve écrite qui a été faite à distance, à la maison et tous les problèmes que ça pose. Donc évidemment, ça veut dire quoi implicitement ? Ça veut dire quels sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour faire un classement, entre guillemets. Et c'est sûr que ce sont les notes des élèves le plus souvent. Et donc on en revient au début de notre débat, c'est-à-dire c'est quoi ces notes ? Et à quoi correspondent ces notes dès lors qu'en effet, comme l'a dit le collègue qu'on entendait, nous dans notre cas, on se retrouve avec des élèves qui pour lesquels 16 est loin de suffire, 16 de moyenne au lycée est loin de suffire pour pouvoir entrer. Donc à un moment donné, il y a une espèce de déperdition du sens de la note, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop ce que ça donne, d'autant plus que cette année, les collègues de lycée semblent avoir noté peut-être de façon un peu relâchée en constatant que le contrôle continu serait très très majoritairement présent pour le calcul du baccalauréat. Et donc ça, moi, ça me pose un certain nombre de questions, notamment parce que on a des élèves qui vont accéder à l'enseignement supérieur en ayant eu des notes au lycée assez exceptionnelles en réalité, très très bonnes, vont avoir le bac. C'est pas la question qu'ils aient le bac, ça c'est normal d'avoir le bac, mais ils vont avoir le bac avec un résultat global au bac qui va être excellent en termes de notes. Et je ne suis pas sûr que ça soit parfois la meilleure solution pour eux en termes de préparation psychologique à affronter l'enseignement supérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont armés puisqu'ils ont eu 15, 16, 17, 18 au bac. Ils arrivent dans l'enseignement supérieur, quel que soit l'endroit où ils arrivent. Et puis là, ils se prennent, entre guillemets, dans la figure une nouvelle organisation, des nouveaux cours, des formations qu'ils n'ont jamais suivies, type psychologie. Et ils se retrouvent en difficulté, d'autant plus que psychologiquement, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parce qu'ils étaient scolairement, en tout cas sur la note, de très bons élèves.
Alors, Mélanie Luce voulait réagir, mais je pense que Marie Durubella aussi voudra réagir. Mélanie Luce.
Je suis désolée, mais je vois pas comment on peut d'un côté critiquer les notes et puis l'existence des notes de manière, enfin, je rejoins totalement une analyse qui a été faite tout à l'heure, et puis de l'autre côté nous dire ah les collègues ont noté trop facilement et puis c'est pas bon pour les élèves et donc futurs étudiants. La question c'est simplement est-ce que les personnes qui ont eu le baccalauréat cette année qui vont l'avoir ont le niveau et ont les qualifications qui sont censées acquérir.
Moi, justement c'est ce qu'avait l'air de dire Pierre Mathieu, c'est que la note cette année ne permet pas véritablement de mesurer cela.
Mais je pense que les enseignants, ils sont tout à fait à même de savoir si sur une évaluation, eh ben, les qualifications qui étaient requises pour cette évaluation ont été acquises. Et donc à partir de ce moment-là, les étudiants qui vont arriver là cette année ont les qualifications requises. Mais surtout, un sujet sur lequel j'aimerais bien revenir, vous avez parlé d'un algorithme. Je pense que les étudiants aimeraient bien savoir comment ils ont été triés. Donc dans cet algorithme, quels ont été les paramètres ? Parce que je rappelle quand même que ça fait plus de 3 ans que l'UNEF demande justement la publication de ces algorithmes. On a un ministère qui a verrouillé la loi.
Ça c'est pour Parcoursup.
Sur Parcoursup, oui effectivement, qui a verrouillé la loi pour s'assurer que l'enseignement supérieur soit une exception dans le droit administratif et donc qu'on n'ait pas le droit d'avoir les algorithmes. Et j'aimerais bien savoir, je pense que tous les étudiants ont envie de savoir pourquoi ils ont été refusés. Et si justement, par exemple, le lycée d'origine n'a pas été un critère de tri. Alors, je dis pas que ça a été le cas à Sciences Po, mais dans certaines universités, ça a été le cas et c'est pas normal.
Alors, juste une réponse rapide, Pierre Mathieu, non pas pour avoir tous les éléments de l'algorithme, je pense qu'on s'y perdrait, mais pour répondre rapidement à Mélanie Luce, puisqu'elle vous interpelle.
Pardon, oui. Non, mais je vais répondre très simplement. Dans notre cas, nous, on a rendu public notre algorithme. On a été presque les seuls à le faire. Et je dois vous dire qu'en le rendant public, on a ouvert la porte, la boîte de Pandore des critiques, puisque évidemment, l'ayant complètement rendu accessible, on a des gens qui ont calculé la moyenne générale qu'ils avaient à notre voie d'accès, qui ensuite nous ont contactés en protestant, en nous disant « mon enfant n'a pas été pris » ou des élèves qui nous ont dit « on n'a pas été pris », mettant en évidence à ce moment-là le fait que même avec 16 ou 16,5, ça ne suffisait pas à rentrer chez nous. Nous, de ce point de vue-là, on n'a pas de problème par rapport à ça. J'en profite quand même, si vous me permettez. Je pense quand même que le fait de dire les élèves, la note des élèves les qualifie à entrer dans l'enseignement supérieur et là où ils veulent aller dans l'enseignement supérieur, moi je suis désolé, je pense qu'il faut être honnête avec les lycéens, parce que sinon on les envoie au casse-pipe, excusez-moi, en tout cas une partie d'entre eux. Il faut être honnête avec les lycéens et avoir l'honnêteté, le courage de leur dire que telle ou telle formation, au vu de leurs résultats, ou au vu de certaines matières, pas toutes, mais une certaine matière qu'ils ont pu suivre, va les placer sans doute en difficulté s'ils souhaitent accéder à tel ou tel cursus. Moi, je suis pour la liberté de choix, mais pour une liberté de choix qui repose sur l'honnêteté que l'on doit absolument à nos lycéens par rapport à leur vœu, à l'expression de leur vœu et ensuite aux conditions de leur admission dans l'enseignement supérieur.
C'est la liberté orientée en fait.
Alors attendez, parce que j'aimerais entendre Marie Durubella qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, et la liberté orientée, c'est probablement une question qu'on pourra reposer un petit peu plus tard, Mélanie Luce, mais Marie Durubella, je pense que vous avez beaucoup de choses à répondre à ce qui a été dit. Vous avez la parole, voilà, peut-être sur cette question de la valeur certificative, ce qu'on pourrait appeler la valeur certificative des examens, c'est-à-dire les notes, le bac, est-ce que véritablement ça certifie les compétences ou est-ce que c'est autre chose?
Moi, ce que j'aurais, en entendant tout ce qui vient d'être dit, j'aurais envie de dire qu'il faudrait peut-être arrêter de faire monter cette pression sur la note, la mention, le programme, le bout du programme, l'école.
Oui, mais c'est ça qui détermine, pardon Marie Durubella, mais avec le système tel qu'il est organisé, c'est ça qui permet aux étudiants d'accéder ou non à telle ou telle formation.
Oui, mais alors, les jeunes font des études pour s'insérer dans la vie. Bon, rappeler cette chose banale, et si on regarde l'insertion des jeunes, elle va pas dépendre d'un point de moyenne, de la mention. C'est très important pour les jeunes qui vont rentrer dans les grandes écoles. On a un système qui est élitiste, qui est polarisé sur les grandes écoles, mais pour le plus grand nombre des étudiants qui vont être dans les cursus universitaires ou des formations à caractère technique, c'est pas le delta là, de plus que son copain. Enfin, je pense qu'on est en train de trop être obsédé par la compétition pour entrer à Polytechnique. Alors effectivement, on est dans un pays où les étudiants qui sortent des grandes écoles ont un bonus considérable en termes de placement, de salaire, par rapport à tous les autres diplômés du supérieur. Il y a presque un jeune sur deux maintenant qui va sortir avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Et quand on interroge les employeurs qui vont les recruter, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'ils cherchent des hommes qui ont telle ou telle qualité personnelle, qui dans leur CV n'ont pas que telle ou telle note, je ne sais où, mais aussi des expériences de vie qui leur paraissent intéressantes. Donc là, il y a un peu une psychose collective qui, je pense, est vraiment tirée par l'obsession des grandes écoles. Et bon, sur l'ensemble de la France, sur la France hors Paris en particulier, on n'est pas forcément dans cette philosophie-là. Je pense que il faut arrêter. Hein. Si on prend les jeunes qui sortent, par exemple, avec une licence, enfin L3 de sciences humaines, il y en a 40%. Qui auront un métier en rapport avec leur formation. Ça veut dire qu'ils vont se placer dans toute autre chose. Et donc, leur formation, elle sera vite très loin derrière elle. Chez les adultes, c'est 1/3 seulement qui a une formation qui correspond à son emploi. Donc, il faut quand même voir un petit peu le long terme et desserrer un peu, enfin, il faudrait respirer un petit peu par rapport à ces considérations très élitistes, finalement. Je veux avoir un peu plus, parce que la seule solution à ce moment-là, c'est on donne tout à tout le monde, comme ça, il n'y a pas d'inégalité, mais ça ne sert plus à rien, les diplômes, enfin, voilà, c'est un peu une...
Mais tout de même, Marie Durubella, on ne peut pas nier que, alors c'est peut-être propre à la France, je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui sont dans ce cas-là, on ne peut pas nier le fait que le diplôme que vous allez obtenir à 18, 20, 22 ans, selon le niveau d'études que vous allez suivre, et plus loin si évidemment vous faites médecine ou vous faites une thèse, ce niveau de diplôme, il va vous marquer à vie, ne serait-ce que par la porte d'entrée qu'il va vous ouvrir. Ça aussi, c'est mesuré par la science sociale.
Non, ce que mesure surtout les sciences sociales, c'est que ce qui marque les gens à vie, c'est le fait de n'avoir rien, c'est-à-dire de sortir sans aucun diplôme. À partir du moment où on a un diplôme de l'enseignement supérieur, que ça soit un bac plus 3, un bac plus 5, à part les grandes écoles, effectivement, qui là sont très particulières, les différences ne sont pas massives, les jeunes vont s'insérer selon le marché de l'emploi, là encore. Donc, voilà, c'est ce que j'évoquais en commençant donc tout à l'heure. Hein. Si le marché de l'emploi marche bien, qu'on ait 17-8 ou 16-8 ou 15 ou je sais pas quoi, son L3 ou son master, ça sera rien, quoi, mais rien du tout. Hein, donc je pense qu'il faut arrêter cette obsession qui, à mon avis, est trop forte. Hein, peut-être que c'est un effet négatif de la sociologie qui rappelle que les titres scolaires dans notre pays, etc., etc. Mais l'expérience de vie, tous les spécialistes de l'APEC, hein, l'Agence pour l'emploi des cadres, le diront, l'expérience de vie, ce qu'on a pu faire, y compris pendant le confinement, quand on n'était pas à l'université, hein, si on a eu des activités bénévoles ou autres, tout ça, c'est très important. C'est aussi important qu'une mention à un diplôme.
Alors, Pierre Mathieu, peut-être une réaction à ce que vient de dire Marie Durubella, pour dire aussi que, peut-être pour sortir, comme elle nous y invite, de cette pure question du diplôme, et sans vraiment porter de regard optimiste, ce qui joue aussi là, dans la période qu'on vient de traverser, c'est pas seulement des notes moins bonnes pour les élèves, c'est aussi une forme de perte de confiance des étudiants en eux, qui ont été très éprouvés durant ces 18 derniers mois.
Oui, alors je vais essayer parce que Mélanie m'a un peu critiqué, mais elle n'a pas complètement tort. Ce que je veux dire, c'est que dans les enjeux, parmi les enjeux majeurs, en dehors effectivement d'essayer de rompre avec cette idée que si on a 15,8 et pas 15,9 au bac ou un diplôme, on est foutu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, là, on va fabriquer. D'ailleurs, on a commencé à fabriquer des générations d'élèves de plus en plus stressés. Et là, le Covid n'y a pas à ajouter à cela. Moi, je crois que parmi les choses qu'on n'a pas encore suffisamment bien mises en place, c'est l'accompagnement des élèves lorsqu'ils sont au lycée vers l'enseignement supérieur. Alors, pas l'accompagnement pour les empêcher d'être candidats à telle ou telle formation, mais un accompagnement visant à expliquer aux élèves ce que sont les cursus auxquels ils souhaitent prétendre. Ça, on ne le fait pas assez, notamment dans le choix des spécialités au lycée, puis dans la guidance sur Parcoursup. Parcoursup est un formidable outil technique, mais sur le plan de son appropriation démocratique, il y a encore énormément d'enjeux. Il y a 18 000 formations sur Parcoursup. Donc, évidemment, la manière dont les élèves abordent Parcoursup est très largement liée à la manière dont ils ont été accompagnés lorsqu'ils étaient...
Justement, est-ce qu'il n'y a pas là une problématique, Pierre Mathieu, après je ferai réagir Mélanie Luce, mais c'est qu'on fait de plus en plus porter individuellement sur les élèves leur propre parcours, leur capacité, si vous voulez, à s'orienter dès la seconde, donc en choisissant d'abord les bonnes options, puis les bonnes formations, et donc on a une forme d'individualisation comme ça des parcours.
Ben écoutez, cher monsieur, quand vous êtes à la fin de la troisième orienté vers un bac pro et pas vers un bac général, lorsque dans le système précédent vous choisissiez, parfois vous choisissiez pas d'aller en STMG ou d'aller dans l'une des trois séries du bac général, vous étiez déjà d'une certaine manière orienté, n'est-ce pas? Et d'ailleurs la vogue terrible du bac S qui rassemblait plus de 50% des élèves, c'était qu'il était considéré en fait comme le seul bac généraliste ouvrant à toutes les formations pour le SUP. Donc cette question-là finalement elle existait déjà avant. Enfin cet enjeu existait déjà avant. Mais vraiment, la question, c'est comment on accompagne avant le bac. Et aussi, je rebondis sur quelque chose qu'a dit Mélanie Luce, sur l'enseignement supérieur, évidemment qu'il y a une question de moyens, ça va de soi, puisque le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter et l'augmentation de l'effort de l'État, parce que l'État met un peu plus de moyens, mais il n'accompagne pas l'augmentation de la courbe du nombre d'étudiants. Donc ça veut dire que ça comprend du retard. Mais je pense aussi qu'il y a une dimension culturelle dans l'enseignement supérieur à accueillir, à savoir accueillir en L1 des élèves divers. Et je pense que l'enseignement supérieur n'y est pas encore complètement préparé. C'est-à-dire que l'enseignement supérieur, quand un gamin arrive en première année de psycho, première année de droit, première année d'histoire, les collègues encore considèrent que les élèves qui sont là ont fait le choix de venir là, ce qui n'est pas toujours sûr du fait de la non-hiérarchisation des vœux sur Parcoursup, et qu'ils sont déjà armés à affronter ce que les professeurs en L1 vont leur demander de faire. Et je pense que c'est faux, c'est une erreur. Et ça produit du découragement qui a été majoré au moment du Covid, ça produit de l'auto-censure et de l'auto-sortie du système universitaire, qui est d'abord fort chez les jeunes des catégories populaires. Donc là, il y a un vrai enjeu, si vous voulez, d'accompagnement pendant au moins le premier semestre du SUP, d'accompagnement des élèves, l'accompagnement à la bascule dans l'enseignement supérieur, qui est une vraie bascule psychologique, d'organisation, de type de cours. Ça, on n'y est pas encore. Honnêtement, on n'y est pas encore.
Alors évidemment, en plus, avec un bac qui a été obtenu par, je crois, 90% cette année des étudiants, au lieu de 85%, cette courbe d'augmentation, elle ne va pas... forcément, c'est une courbe d'augmentation, elle ne va pas réduire. C'est une tautologie, Mélanie Luce, sur cette question de l'accompagnement.
Oui, bien sûr, mais c'était un des premiers éléments que je mettais en avant, justement. Et je pense qu'en fait, l'enjeu pour la rentrée, vous posiez la question d'est-ce que les élèves de terminale seront prêts. Ben, moi, j'ai confiance dans les enseignants pour savoir qu'ils soient prêts, mais aussi dans le fait que, dans l'enseignement supérieur, ce qu'il faut faire, c'est effectivement permettre de l'accompagnement, de la remise à niveau pour ceux qui le souhaitent à la rentrée. C'est là qu'est l'urgence. Et après, c'est certain, je suis d'accord, il y a un enjeu de moyens, il y a un enjeu de culture et au-delà de désaccords de fond sur ce que doit être la pédagogie en France. Nous, on ne défend pas une pédagogie mandarinale, si je dois mettre un peu les pieds.
Je croyais qu'on en était sorti depuis 1968 de la pédagogie mandarinale.
Ah bah non, on n'en est pas sorti. Enfin, un cours d'amphithéâtre où on est simplement assis, on écoute le cours et on n'a aucune interaction avec un enseignant, c'est malheureusement très mandarinal. Et on n'est pas encore sorti justement de tout ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment développer des pédagogies inversées où en fait c'est l'étudiant qui est au centre de l'apprentissage et qui n'est pas simplement dans une relation descendante avec son enseignant. Bon, au-delà de ça, je pense que quand même c'est important de dire, on peut pas finir cette émission sans dire que le vrai problème de Parcoursup, c'est quand même la sélection. C'est pas simplement les algorithmes, c'est pas simplement le manque de place.
Mais la sélection avait lieu avant, c'est ça que dit Pierre
Mathieu. Non, la sélection avant sur APB, c'était une c'était il n'y avait pas de sélection, c'est-à-dire le code de l'éducation, c'était l'article L612-3 du code de l'éducation qui disait que l'accès à l'enseignement supérieur était libre. Il y a eu effectivement du tirage au sort et c'était en aucun cas une bonne solution. Et je trouve que c'est trop facile à chaque fois qu'on critique les réformes qui ont été mises en place de dire avant c'était pire. Non, c'était ni une solution avant ni maintenant, et maintenant c'est encore pire et les études le montrent. Sur Parcoursup, on a créé des inégalités, on a augmenté le taux de concentration d'étudiants en mention très bien dans certaines universités, et donc on a créé des facs qui sont encore plus des facs d'élite aujourd'hui que ce qu'elles étaient avant. Donc on a aggravé les choses. Maintenant, si on veut désaggraver les choses, on crée des places, on supprime le processus de sélection, on garde une procédure d'affectation numérique, bien sûr, il va falloir faire des vœux, il va falloir les hiérarchiser, par contre, on dit à tous les étudiants et tous les jeunes titulaires du baccalauréat que leur baccalauréat leur permettra de choisir réellement leur inscription dans le supérieur.
En deux mots, Pierre Mathieu.
Bah, c'est bien gentil, mais j'y crois pas trop. Je prends un exemple tout bête. Ça voudrait dire que les 13 700 élèves qui avaient candidaté dans les 7 Sciences Po du réseau auraient dû être pris. Et puis, qu'est-ce qui se serait passé si, donc, en créant 13 700 places, vous imaginez, moi, j'ai que 300 places dans mon grand amphi. Donc, ça voudrait dire que, vous imaginez. Et l'année prochaine, si on avait que 5000 candidats, on aurait recruté 50 collègues pour faire face à cet afflux d'élèves. Et l'année suivante, les 50 collègues seraient au chômage technique parce que l'attractivité de notre cursus se serait complètement cassée la figure. Donc, je pense qu'il y a une forme d'aporie, là. C'est-à-dire que, on peut pas faire que, c'est très, très bien de pouvoir dire, tous les élèves doivent pouvoir aller là où ils ont envie d'aller dans l'enseignement supérieur. Mais je crois que ça n'est pas possible.
Ce n'est pas possible, ouais.
Marie. Je pense que c'est faux, hein. Je suis désolée, c'est faux. C'est-à-dire que déjà, il y a plusieurs choses. On parle de ce qu'il y avait avant sur l'université. Donc, à l'université, l'accès était libre. Nous, on pense qu'il doit y avoir de sélection nulle part, ni dans les écoles, ni à l'université. Simplement, là, à l'université, on a aggravé les choses. Et puis, c'est pas vrai qu'on va mettre des gens au chômage. La courbe de croissance démographique, elle s'installe sur le temps long. On arrive bientôt à l'enseignement supérieur des 3 millions d'étudiants et on fonctionne comme l'enseignement supérieur des 2 millions. Ce n'est plus possible.
Marie Durubella, on arrive tout au bout de l'émission. Je voulais vous poser une question sur les aspects positifs de ce qu'on vient de vivre. Et on pourrait se dire que les étudiants auront acquis des compétences.
Parce qu'on peut dire, on a aujourd'hui 80% des étudiants au bac. Plus de la quasi-totalité fait des études supérieures. Ils font des études supérieures pour avoir un emploi. Un emploi suffisamment bien rémunéré, etc. Des emplois de cadre auxquels restent les étudiants, c'est 20% des emplois. Qu'est-ce qu'on fait, hein? C'est qu'on prend tous les étudiants, ils vont où ils veulent. On a vu, par exemple, le nombre de diplômés en STAPS, en sport, hein, être multiplié par 5 ces dernières années. Bon, est-ce que... voilà, c'est tout. Hein. Alors, on va demander le droit à rentrer dans l'enseignement supérieur et après, on va demander le droit un emploi dans sa spécialité. Donc je pense que là, on est quand même un peu, on marche un peu sur la tête. Mais ça, c'est des questions qui fâchent, évidemment.
Mais pourtant, c'était le droit français jusqu'à 2018. Est-ce que quelqu'un se rend compte que c'était le droit français jusqu'à 2018? Jusqu'en 2018, on avait la libre accès.
C'était le droit, mais c'était pas forcément la réalité. Je pense que c'est ça qu'essaye de dire.
La réalité
dans le sens où...
Dans exactement 3% des filières en France, c'était le nombre de filières dans lesquelles il y avait du tirage au sort. C'était scandaleux quand même. Mais simplement, on pouvait peut-être créer des places dans ces 3% de filières et puis laisser les autres étudiants s'inscrire dans la filière de leur choix.
Marie Durubella.
Mais l'insertion, on n'était pas forcément au rendez-vous. Enfin, c'est normal qu'en tant qu'étudiant, vous défendez l'entrée dans la vie étudiante. Mais il faut voir la suite. Et la suite, c'était souvent très décevante. Les déclassements des diplômes, c'est pas une fantaisie. Ça s'observe. Hein. Tous les chercheurs l'observent aussi. Donc il faut accepter de voir ça aussi.
Il faut réformer du coup le contenu du diplôme et avoir des diplômes pluridisciplinaires pour que justement on puisse multiplier nos possibilités d'insertion professionnelle. Alors, ça sera une réponse.
Pierre Mathieu, vous vouliez répondre, vous avez vraiment 15 secondes, je suis désolé, on est au bout.
Non mais c'est une illusion, l'idée qu'il y a eu à une époque où les élèves pouvaient aller là où ils voulaient aller, c'est faux. Et quand ils pouvaient y aller, il y avait des taux d'échec majeurs dans des formations où effectivement ils pouvaient aller. STAPS, il y a eu une époque où tout le monde pouvait y aller,
oui, c'est
un concours. Enfin, je pense que c'est très sympathique de dire cela, mais je crois que ce n'est pas honnête par rapport aux élèves.
Écoutez, comme d'habitude, le débat prend à 10 minutes de la fin. Vous étiez plutôt d'accord jusque-là, mais c'est très bien. Ça montre que voilà, ce sont des sujets qui intéressent. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive au bout donc de cette émission. Merci à Vanessa Nadjar pour la réalisation, à la prise de son. C'était Ludovic Auger. Merci à Seam Boutata pour sa collaboration. Lundi, dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin posera cette question. État de la France, à qui se fier? Demain, Émilie Aubry, l'esprit public. Voilà, c'est le prochain magazine d'actualité. Ce sera à 11h sur France Culture. Bonne soirée à toutes et tous à l'écoute de notre chaîne. Tout de suite, on retrouve Hervé Gardette, politique.